Chers auditeurs et chères auditrices de Radio FM+, sur 91 FM, je suis très contente de vous retrouver pour faire à nouveau une brève rencontre. Alors, brève rencontre, alors c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai parlé, nous avons rencontré de personnages bibliques qui avaient un rôle assez important et qui étaient assez connus pour la plupart. Aujourd'hui, je vous propose de faire une vraie brève rencontre avec un personnage, une femme d'ailleurs, qui intervient très très peu. La plupart d'entre vous ne la connaissent pas, elle s'appelle Rizpa. Alors Rizpa, on la trouve dans le deuxième livre de Samuel, et je vais vous lire le passage où on la rencontre. Mais j'avoue que moi-même, je serais passée à côté de Rizpa si je n'étais pas allée dans une petite chapelle en Savoie. Vous savez, ces petites chapelles dites baroques qui sont assez émouvantes. Et dans cette petite chapelle, il y a en plein milieu une Pietà, c'est-à-dire Marie avec son fils descendu de la croix, le Christ descendu de la croix qu'elle a sur ses genoux. Et de chaque côté, il y a deux tableaux assez naïfs et assez touchants. L'un où on voit Agar. Donc Agar, c'est la mère du premier enfant d'Abraham, c'était la servante de sa femme, et il a eu un enfant avec elle, Ismaël. Et quand sa femme Sarah a eu enfin un enfant, Isaac, elle a fait chasser Agar, et Agar se retrouve seule dans le désert, et là elle est avec son fils et elle est complètement démunie. Bon, Dieu va venir à son secours, c'est ce qui nous est dit par la suite dans le livre de la Genèse, mais en tout cas, à ce moment-là, Agar fait partie de ces mères qui souffrent de voir leur enfant souffrir. Et ça rappelle évidemment Marie et Jésus, et Marie en tant que Pietà. Et puis de l'autre côté, étonnamment, heureusement qu'il y avait la référence, je vois une femme avec cette croix. Qu'est-ce que c'est que ce tableau qui représente cette femme? Donc je me suis reportée au deuxième livre de Samuel au chapitre 21 et j'ai rencontré Rizpa. Parce que vous savez, même si je lis assez régulièrement la Bible, souvent on passe parfois sur des personnages, il y en a tellement dans la Bible avec des noms tellement compliqués. Donc en fait, des fois on passe. Mais là, cette Rizpa, du coup, elle m'a interpellée. Donc je voudrais avec vous partir à sa rencontre aujourd'hui, parce que finalement, cette femme souffre, et on va voir pourquoi. Mais la souffrance de cette femme, bon, certes, rejoint toute la souffrance des mères, mais il y a derrière l'acte de que va faire cette femme quelque chose de profondément humain et quelque chose qui nous rejoint aujourd'hui, même si au premier abord ce texte est très violent quand vous allez l'entendre et on nous semble finalement être obsolète, être texte de l'Ancien Testament qui n'a plus grand-chose à nous dire. Donc je vous invite à lire, enfin en tout cas je vais vous lire une partie, je vais faire quelques coupes parce qu'il est un peu long ce texte, du chapitre 21 du deuxième livre de Samuel. Or du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites ». Donc David va voir les Gabaonites, puisque Dieu lui dit que le problème est avec eux, et il leur dit « Que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondent « Ce n'est point pour nous une question d'argent, ni d'or avec Saül et avec sa famille, ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi dit « Ce que vous direz, je le ferai pour vous. » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer, c'est-à-dire Saül, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous exposerons leur corps devant l'Éternel. » Le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi prit donc les 2 fils de Rizpa, et voilà la première mention de cette femme, fille d'Aïa, qu'elle avait enfantée avec Saül, puisque Rizpa était, nous dit-on, la concubine du roi Saül, et les 5 fils de Michal, fille de Saül. Il les livra entre les mains des Gabaonites, qui exposèrent leur corps sur la montagne devant l'Éternel. Alors exposer, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ça veut dire qu'ils les tuaient, qu'ils les ont tués et qu'ils les ont laissés là, au milieu de la nature. Bon, le tableau auquel je faisais référence les montre crucifiés, mais bon, on ne sait pas comment ils ont été mis à mort, mais en tout cas, ils sont là. et ils sont exposés jusqu'à temps que les bêtes viennent les dévorer. C'était comme ça qu'on faisait, voilà. Les sept périrent ensemble, ils furent mis à mort les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Cette mention est assez importante. Ritzpa, fille d'Aïa, prit le sac et l'étendit sous elle, contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Alors, entre le commencement de la moisson de l'orge, c'est vers le mois de mai, et il se remet, l'été il ne pleut pas là-bas, il se remet à pleuvoir, en général à l'automne. Donc, elle va rester là pendant 4 ou 5 mois. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. On rapporte à David ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aïa, concubine de Saül. Alors David alla prendre les os de Saül, les os de son fils Jonathan, chez les habitants de Yabesh. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux dont les corps avaient été exposés. Donc les sept qui ont été gardés pendant plusieurs mois par Ritzpa. On ensevelit les os de Saül et de son fils Jonathan dans le pays de Benjamin, à Tsela, dans la tombe de Kish, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Donc, voici donc un texte assez hermétique, assez étonnant, d'une violence quand même inouïe, où il faut mettre à mort cet homme, cet innocent, tout ça pour apaiser, nous dit-on, Dieu. Mais j'en ai une autre explication. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui apaise Dieu. Et puis, on a l'impression d'être dans un monde qui est dépassé, on serait passé déjà à autre chose. Bon, notre monde est encore rempli de violence, il faut bien l'avouer. Même si ici on n'expose pas les corps, mais il y a encore des lieux où ça se fait. Et finalement, je pense que ce texte peut nous parler encore aujourd'hui. Mais revenons à notre petite bonne femme, la Ritzpa. Enfin, petite bonne femme, elle a déjà un certain âge, puisque ses fils sont adultes et sont mis à mort. Donc Ritzpa fait partie de ces personnages de la Bible, comme je vous le dis, qui finalement, personne ou presque n'a entendu parler d'elle. J'aime bien finalement ces petits personnages qui nous disent quand même beaucoup. Qui nous disent aussi que finalement, ces petits, c'est moins que rien, parce que qui elle est ? La concubine du roi. Le roi est mort, égorgé, et donc il a perdu, tout perdu. C'est David qui a pris le pouvoir à sa place. Donc finalement, son rôle est quand même, dans la société, est quand même celle d'une exclue. Complète. Donc, une petite. Petite parce qu'elle est exclue, petite parce que finalement, quelques références dans un chapitre, et puis elle disparaît complètement. Donc, moi, j'ai envie de m'intéresser à ces petits, à ces brèves rencontres, comme cela s'appelle l'émission. On ne va pas la rencontrer beaucoup, mais le peu que nous allons découvrir, a beaucoup à nous dire. Alors on pourrait se dire déjà, cette histoire d'ensevelissement, de garder les corps, chez les protestants quand même, nous sommes un peu au-dessus de ça, nous sommes loin de veiller les morts, de prier pour les morts et tout. Mais en réalité, dès le début, même si le protestantisme avec Calvin disait qu'il fallait pas enterrer, enfin qu'il fallait enterrer, mais qu'il fallait surtout pas faire des cérémonies et tout, très rapidement on s'est aperçu que pour faire notre deuil, nous avons besoin de tout cela. Et cette femme va permettre, j'aime pas l'expression faire son deuil parce que est-ce qu'on fait son deuil ? Est-ce que ceux qui nous ont quittés, qui nous sont chers, sont toujours présents ? Et la douleur, même si nous apprenons à vivre avec, elle est encore très souvent bien vive. Mais bon, en tout cas, pour essayer de vivre malgré tout et contre tout, il faut en effet passer par certaines étapes, dont celle de l'ensevelissement. Et nous, savons bien aujourd'hui. Nous voyons encore aujourd'hui avec ce qui se passe dans le conflit, dans certains conflits, on veut récupérer les cadavres de ceux qui nous ont quittés. Non seulement les récupérer les vivants, les otages vivants, mais aussi ceux qui sont morts pour pouvoir les enterrer et pour pouvoir les vénérer en quelque sorte, avec un petit V, bien évidemment. On sait que lorsqu'un enfant disparaît, eh bien, il est impossible de passer, de vivre encore. On a besoin, en effet, de savoir ce qui s'est passé. On a besoin, finalement, du corps, de la présence du mort pour pouvoir, eh bien, continuer à vivre, continuer à avancer. Donc, voilà un peu déjà ce en quoi, eh bien, cette femme nous aide à comprendre combien encore aujourd'hui ces rites sont importants, même si parfois nous pensons qu'ils ne le sont pas. Ils sont profondément importants. Et puis, ce qui se passe après m'a beaucoup interpellée aussi. Et je vous propose une petite pause musicale avant de comprendre vraiment les enjeux de ce texte. Donc nous retrouvons Rizpa, cette femme qui vit dans un cycle de violence masculine. Elle est là, elle ne va pas réclamer vengeance. En fait, on ne sait pas, elle ne nous dit rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle va veiller ses fils et elle va adopter quelque part, au-delà de la vie, ses petits-neveux, puisque ce sont les enfants, les 5 enfants de la fille de son concubin. Elle est là, elle les garde. Ici s'achève un cycle, en réalité, dans notre Bible. C'est pour ça qu'il nous préoccupe le plus, le cycle de Saül. Saül n'aura pas de descendants, et c'est ce qui a été annoncé déjà précédemment. Alors, rappelons-nous ce qu'il y a au début. Au début, on est dans un temps de famine, et donc on peut imaginer que ces hommes sont en quelque sorte des sacrifices qui sont offerts à Dieu pour ramener eh bien, la pluie, le temps des récoltes, etc. etc. Donc, personnellement, j'aime pas beaucoup cette image de Dieu, et je pense pas d'ailleurs que là, ça soit l'extermination de ces 7 innocents qui fait que Dieu soit apaisé, comme on nous le dit à la fin. Mais c'est plutôt ce que fait Rizpa qui va apaiser Dieu. Et puis cette vision du sacrifice est une vision complètement archaïque. Pourtant, elle peut nous interroger, non pas pour sacrifier des êtres humains, mais elle peut nous interroger qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier dans notre existence pour que justement ce dérèglement climatique, puisqu'il est question de cela là, à cette époque-là, pour que ce dérèglement climatique eh bien, puisse être contrecarré. Comment faire revenir la pluie au moment où il faut, le soleil au moment où il faut, le froid quand il faut? Comment faire que eh bien, notre monde puisse vivre à nouveau en harmonie? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Ça, c'est une question qui peut nous rejoindre. Étonnamment, des fois, c'est des textes qui nous semblent les plus lointains, qui nous questionnent et qui nous posent des questions qui déplacent notre questionnement, qui déplacent le questionnement du texte et qui nous rejoignent. Mais d'autres pistes s'ouvrent à nous. Et cette histoire d'os, alors c'est un peu loin de nous, cette histoire de... Mais en réalité, dans l'Ancien Testament, il ne s'agit pas vraiment de résurrection de la chair, mais toujours de résurrection des os. Et d'ailleurs, ça va jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de Jésus. Il faut que le squelette soit gardé dans son intégralité. On mettait les êtres humains, une fois mort, dans des sarcophages. Sarcophage, c'est là, la chair est mangée, mais le squelette reste dans son intégralité. Dans les psaumes, on entend bien combien il ne faut pas briser les os. Et c'est d'ailleurs ce qui se passera à la croix lorsqu'on nous dit que les os de Jésus meurt avant qu'on lui brise les os. Vous savez, la croix, c'est un supplice épouvantable où on meurt par étouffement parce que petit à petit, eh bien, les poumons s'affaissent et on n'arrive plus à respirer et on est étouffé. Alors, pour alléger en quelque sorte, si on peut dire, les souffrances des crucifiés, on leur cassait les jambes, et comme ça, ils s'affaissaient beaucoup plus vite et ils mouraient beaucoup plus vite. Jésus meurt avant, et on n'a pas besoin de lui briser les os. Quelque part, ça nous rejoint, et à cette époque-là, ça rejoint évidemment les lecteurs de ce premier testament qui nous parle de la résurrection des os, avec un très beau texte qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, où on voit la chair revivre sur les os et sur les squelettes. Il faut pour cela, en quelque sorte, que le squelette soit gardé dans son intégralité. Bon, c'est très symbolique tout ça, mais on peut l'entendre, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour que, on puisse continuer à faire mémoire de ceux qui l'ont quitté. C'est donc l'amour de cette mère qui sait toucher David. Et David, du coup, qui va réunir les os de ses sept suppliciés, il va réunir les os de ses sept suppliciés avec ceux de Saül et Jonathan. Donc, Saül le père, Jonathan le fils, et tout cela, de nouveau, dans la tombe de Kish, qui est l'ancêtre de toute cette lignée qui vient de s'éteindre complètement. Et David est touché, et donc il y a cette réunion. Alors vous me direz, aujourd'hui ça ne nous touche pas vraiment, quoique aujourd'hui encore, dans certaines civilisations, il y a cette réunion des corps, il y a parfois, on déterre les corps pour les remettre avec ceux des ancêtres, et je pense que ces rites sont très importants, il ne faut pas les dénigrer, et chaque civilisation, chaque peuple a des rites différents, et c'est très bien comme cela. Mais aujourd'hui, moi personnellement, ça m'interroge en me disant, et si nous nous réunissions bien avant la mort ? Pas attendre que nos os soient desséchés pour être capables de nous réunir, de nous parler, de faire que nous puissions vivre ensemble encore ici et maintenant. Et puis il y a la douleur de cette femme et cette mort complètement, ces morts, nous semble-t-il, qui ne sont là pour rien. Pour rien. Ça m'a rejoint parce qu'au moment où je travaillais un peu ce texte, il y a eu cet assassinat de ce jeune à Marseille, Mehdi Kessassi, qui est mort juste parce qu'il était le frère de quelqu'un qui ne faisait pas comme il fallait, qui est mort pour rien, pour l'exemple, pour faire peur, pour exposer. Et j'ai entendu, finalement, à la fois son frère qui vient et qui témoigne, mais aussi la mère, sa mère qui témoignait déjà à la mort de son premier fils et qui a témoigné après. Sans désir aucun de vengeance, au contraire, mais avec un désir, avec nous disant toute la douleur d'une mère, tout comme Rizpah le fait, toute la douleur d'une mère, mais aussi la douleur de toutes les mères, ne voulant pas que d'autres mères subissent ce qu'elle a subi, et finalement s'apercevant que, la vengeance n'était pas du tout la manière de s'en sortir, que le seul moyen de s'en sortir, au contraire, c'est d'agir, de faire que les choses qui se sont passées ne puissent pas recommencer. Alors c'est facile à dire, on sait bien que souvent ce sont des combats difficiles, avec de nombreux écueils, qu'il va falloir souffrir encore, mais cette femme rejoint, à mon avis, Rizpah, toutes ces mères qui ont su souffrir, comme la Pietà finalement. La croix, c'est aussi l'endroit où se brisent les désirs de vengeance, où finalement on nous dit que l'amour, c'est pas forcément quelque chose de mièvre, bien au contraire, ça peut être une manière d'agir parfois de manière ferme, que l'amour peut aller au-delà de ce ses désirs de vengeance et ses besoins de violence encore plus violente, de plus en plus violente. D'ailleurs, Rizpah, ce qu'elle fait, elle réorganise un monde, elle fait que l'harmonie puisse revenir. Rappelez-vous, la séparation entre le jour et la nuit, elle l'a fait, ça nous renvoie au début du livre de la Genèse, au moment où Dieu sépare le jour et la nuit. Elle sépare aussi les hommes, les humains, et l'animalité. Bien sûr, les animaux ont toute leur valeur, mais il y a une part d'animalité dans l'humain, cette part de violence qu'il faut apprendre à maîtriser. À maîtriser parce que nous sommes justement faits de chair et de sang, mais aussi d'esprit. Cela nous rappelle que nous avons à nous aussi reçu le souffle de Dieu au tout début, au début de notre existence, au début du livre de la Genèse. Ce souffle qui fait que justement, nous ne sommes pas des animaux tout à fait comme les autres. Nous pouvons essayer justement de maîtriser notre violence et notre animalité. Et ça, Ritzpa, en quelque sorte, elle essaye par son geste, symboliquement en tout cas, de séparer et de ramener de l'ordre là où il y a du désordre. Alors en effet, cette femme, elle fait beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire. Elle fait beaucoup plus, elle va ramener l'harmonie dans ce monde où il y a la famine, et finalement c'est son geste, et non pas la mise à mort des enfants, c'est son geste qui vont sauver le monde. Alors je ne sais pas si aujourd'hui nous avons encore des gestes à faire, enfin je pense que nous avons encore des gestes à faire, mais encore faut-il qu'ils aient du sens dans notre monde. Les sages de Ritzpa n'ont aucun sens dans notre monde, c'est à nous aujourd'hui de trouver les gestes qui ont du sens pour faire que la violence et la vengeance s'arrêtent, pour faire que l'harmonie revienne et que Dieu soit apaisé, parce que Dieu souhaite la paix et l'amour entre les humains. À très bientôt pour une autre brève rencontre.